Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, les ondes marseillaises pour l'émission Une heure en Palestine. Je m'appelle Marie, cette semaine comme la semaine passée, c'est ensemble qu'on passera cette heure en Palestine. Au menu aujourd'hui, on va parler des actualités en Palestine et dans la région de Marseille sur le sujet de la Palestine, et puis on laissera aussi la parole à Rizlen qui continuera à nous marteler l'importance du boycott. Et enfin Philippe, qui a rencontré la doyenne de la dernière flottille pendant la dernière opération Thousands Madeleine, Isaline, une dame corse âgée de 83 ans. C'est parti pour une heure en Palestine sur Radio Galère 88.4. On commence donc avec l'actualité en Palestine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un très fragile accord de cessez-le-feu a été conclu. Un cessez-le-feu, c'est ce que demandaient les militants et les militantes pro-palestiniennes et à force pas mal d'institutions, y compris l'État français. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un minimum. L'arrêt des bombardements incessants et le retrait des forces d'occupation israéliennes pour permettre aux Gazaouis de rentrer, c'est un minimum. Et pourtant, même ce minimum est tellement fragile qu'il n'a pas tenu. Ce cessez-le-feu a bien commencé avec le retrait des forces d'occupation israéliennes de la bande de Gaza, mais deux choses. D'une part, pour le moment, elles se sont retirées de ce qu'ils ont appelé le corridor de Netzarim, ou la ligne jaune, qui sépare la bande de Gaza en deux, entre le nord et le sud. Ils se sont donc retirés de cette ligne, mais pour autant, les autorités israéliennes gardent le contrôle sur 58% de la bande de Gaza. Pour ceux qui, comme moi, sont devenus familiers de la géographie de la bande de Gaza à cause de ce génocide, sauront que ces 58% incluent Betlaya, Beit Hanoun, Shujaya, Tufah et Zeytoun. Dans le nord et dans le sud, ils restent présents dans une grande partie de la ville de Khan Younis, ainsi que Rafah. Et bien sûr, ils gardent le contrôle sur tous les checkpoints, les points de contrôle, par lesquels passent les camions humanitaires pour les Gazaouis. Points de contrôle d'ailleurs qui n'ont été ouverts qu'à quelques camions. Au moment où j'écris cette chronique, ce sont 12 sur les 300 négociés dans le cadre des négociations pour un cessez-le-feu. Pour rappel, il en faut au moins 600 par jour pour répondre aux besoins des Gazaouis. C'est d'ailleurs l'occasion de parler de l'instrumentalisation de l'aide humanitaire dans un contexte déclaré par les Nations Unies comme étant de grande famine. L'aide humanitaire devient un outil de négociation, comme le dénonce Tamara Al-Rifai, directrice des relations extérieures et de la communication pour l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens dans la région du Levant. Elle était invitée sur l'antenne de RFI le 16 octobre dernier. Écoutez.
Ça l'a été depuis le début de ce conflit. L'aide humanitaire a été manipulée, politisée, utilisée comme monnaie d'échange. Il y a eu des semaines entières où l'aide humanitaire, la nourriture n'est pas entrée à Gaza. D'ailleurs, la famine a été déclarée à Gaza à la fin du mois d'août. Et en comparaison, pendant le cessez-le-feu entre janvier et mars, avec un accord sur un accès humanitaire sur l'entrée de entre 500 et 600 camions par jour, on a remarqué que les Gazaouis respiraient beaucoup mieux, mangeaient beaucoup mieux, et surtout, il n'y avait pas de pillage de camions humanitaires pendant ce flot de camions pendant le cessez-le-feu au printemps dernier.
Bon, si je vous entends bien, la première urgence, la priorité aujourd'hui, c'est l'ouverture de tous les points de passage pour permettre l'acheminement de cette aide.
Absolument, mais j'aime préciser qu'il est difficile de faire de priorité. Évidemment qu'avec la famine, la nourriture et l'acheminement en masse de l'aide humanitaire, de la nourriture, mais aussi des médicaments, des produits hygiéniques, même des savons, des produits féminins, tout manque à Gaza. Tout manque à Gaza au milieu d'une destruction de plus de 92% des logements à Gaza. Donc imaginez-vous, la bande de Gaza, c'est la moitié de la taille de Paris avec un nombre égal d'habitants. Donc 2,1 millions de Parisiens, j'espère que j'ai raison, oui. 2,1 millions de Gazaouis. Imaginez les Parisiens sur 10 arrondissements, donc 90%, 92% de l'infrastructure, y compris les services publics, les écoles, les dispensaires, tout détruit. Aujourd'hui, Gaza, c'est ça.
C'était un extrait de l'interview de Tamara Al-Rifai, la directrice des relations extérieures et de la communication pour l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens dans la région du Levant. Elle était invitée sur l'antenne de RFI ce 16 octobre dernier. Une autre nouvelle a secoué celles et ceux qui suivent le génocide de près. L'assassinat du journaliste Saleh Al-Jafarawi. Quelques heures après avoir lui-même annoncé le cessez-le-feu avec joie, mais prudence quand même, il a été assassiné. Ce ne sont pas des informations que j'ai pu moi-même vérifier, mais il pourrait s'agir de milices locales soutenues par l'État colonial israélien. Et puis les bombardements ont continué dans le sud du Liban, par exemple, où une personne a été tuée et 7 autres ont été blessées. Et même dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont repris ce dimanche 19 octobre à Rafah et Beit Laya, donc dans les grandes villes du sud et du centre de la bande de Gaza. Ce sont 120 frappes israéliennes sur 83 cibles qui ont tué 45 personnes ce dimanche. Des chiffres et encore des chiffres qui ne rendent pas compte de l'horreur vécue par les Gazaouis. Et tout ça, c'est bien évidemment sans parler de la Cisjordanie, mais on va y revenir parce que là-bas aussi ça continue, sous les radars, comme toujours. Comme ceux qui placent leurs pions et font leur plan Trump et autres plans coloniaux sans l'avis des Palestiniens et Palestiniennes. Nés au mauvais endroit et accusés par défaut, une présomption de culpabilité de naissance est tamponnée à vie. Ne serait-ce que par les paysages de désolation, de dévastation, de destruction, tous ces mots qui commencent par « D » pour nous assommer de l'anéantissement de tout un peuple, les Gazaouis peuvent rentrer chez eux, il y a un cessez-le-feu, mais rentrer où ? 92% des bâtiments ont été détruits. C'est ce qu'explique un médecin dans un texte qu'il a écrit lui-même, un médecin gazaoui qui s'appelle Dr Ezzedine et dont j'aimerais vous lire un extrait. Je suis revenue aujourd'hui. Je pensais avoir déjà connu le désespoir, mais ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse le désespoir. Ce n'est ni chagrin, ni horreur, ni douleur. Le ciel était d'un bleu impossible, ce bleu qui vous nargue, qui vous fait vous demander si la beauté elle-même n'est pas un crime. J'ai parcouru des rues qui n'existent plus, des rues qui étaient mon enfance. Ils ne sont plus qu'un désert de pierres, de fils et de poussière. Un homme se tenait sur un tas, un voisin je crois. Il a pointé du doigt et il a dit « C'est ici ». Je lui demandais « Jusqu'où ?» Il a regardé vers le bas et j'ai compris. Ma maison était sous ses pieds. J'ai soulevé mon téléphone comme si la machine pouvait reconnaître ce que je ne pouvais pas. L'écran brillait, il n'y avait rien à voir. La terre avait englouti les distances, même l'odeur du foyer avait disparu. C'était comme si le fil qui me relie à la vie elle-même avait été coupé. J'ai creusé avec mes mains. La poussière brûlait, mes paumes saignaient. Ma mère m'avait dit « Cherche tout ce que nous pouvons sauver ». Alors je lui ai obéi comme un fils obéit à la dernière voix qui croit encore que l'obéissance a un sens. D'une maison qui a coûté à mon père 120 000 dollars, une vie de travail, d'espoir, de décence, j'ai trouvé deux choses. Un couteau et un oreiller. Deux vestiges de civilisation. L'un par nécessité, l'autre par illusion. Voilà ce qui reste de l'homme. J'étais assis dans les ruines, le bleu de ma chemise était devenu gris à cause des cendres et je pensais, ce n'est pas la fin d'une ville, mais du sens lui-même. Mais ce qui me déchire le plus que la ruine, c'est le silence. Personne ne nous parle, personne ne nous dit où aller, qui reconstruira où, qui est responsable. Les politiciens parlent de victoire, les généraux de stratégie, le monde de paix et de progrès, mais aucun d'eux ne vit ici parmi les cendres. Aucun d'eux ne se tient là où je me tiens à fouiller ses propres morts. Et ceux qui prétendent nous représenter, où sont-ils ? Ils sont assis dans des bureaux, chemises propres, comptant nos cadavres comme des chiffres sur du papier. Ils parlent de reconstruction, aide, négociation, comme si le vocabulaire du pouvoir pouvait combler le vide du lit d'une mère. Je vous le dis, en vérité, il n'y a pas de plus grand crime que l'indifférence. Le meurtrier au moins reconnaît la victime. Mais ceux qui détournent le regard tuent l'âme elle-même. J'ai épousté ma chemise, même si je savais que c'était inutile. Je voulais voir s'il restait encore de la couleur dans le monde. Il n'y en avait pas. Le bleu était devenu la couleur du deuil. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient. Non pas de peur, mais de l'insoutenable constat que nous sommes devenus des biens matériels pour le monde. Notre souffrance est un divertissement, notre mort une politique, notre endurance une statistique. J'ai alors pleuré, ouvertement, sans honte. Il n'y a rien de noble à être oublié. Si vous lisez ceci, n'admirez ni le style ni le langage. Baissez la tête et pleurez. Parce que cette poussière, ce silence, ce cri, c'est ce qui reste de nous. Je suis médecin à Gaza. Chaque jour, je traverse les ruines, cousant des blessures que le monde ne verra jamais. Et la nuit, j'écris, car certaines vérités ne peuvent pas rester enfouies. Si mes paroles vous sont parvenues, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la souffrance exige d'être vue. Aidez-moi à mettre ce livre au monde. Ni pour la reconnaissance, ni pour s'échapper, mais parce que la mémoire, une fois écrite, ne peut pas être effacée. C'était les mots du docteur Ezzedine, un médecin à Gaza. Et je vous propose maintenant d'écouter cette musique et on se retrouve juste après. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Galère 88.4, vous êtes avec moi Marie dans l'émission Une heure en Palestine. Et vous venez d'écouter la chanson choisie par Toka que vous avez entendue la semaine dernière, une chanson de Julia Boutros qui chante pour la Palestine en 2024. J'ai bien conscience que cette première partie d'émission n'est pas des plus réjouissantes et qu'elles peuvent en assommer plus d'un, alors après tout ça, nous on fait quoi ? On agit aussi de notre côté, et ici à Marseille, et dans ses environs, il s'en passe des choses. Une manière de le savoir, c'est de se rendre sur le site de l'association Palestine 13, dont vous entendez l'une des voix le dernier mercredi de chaque mois, c'est celle de Philippe. Avec les routes du Zaatar, il prend souvent la mer, et cette fois-ci, c'est entre autres pour rendre visite à une personne très spéciale, qui s'appelle Isaline. C'était la doyenne de la dernière flottille qui a navigué elle aussi pour briser le blocus imposé par les autorités coloniales israéliennes. Isaline a 83 ans, elle est corse, et elle n'a pas hésité une seule seconde à monter à bord du grand bateau appelé Conscience. Je vous laisse avec Philippe et elle, qui nous explique les raisons de son engagement.
Alors voilà, donc à nouveau Philippe, et j'ai la chance d'être dans la maison d'Isaline Chouri à Ajaccio. Isaline, donc, qui est une extraordinaire femme corse et qui souhaitait un petit peu revenir sur la façon dont, d'une part, la Corse a été libérée, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, et aussi comment l'Assemblée de Corse a donc reconnu l'État de Palestine. Alors merci Isaline de nous recevoir. Et donc, on t'écoute sur les précisions que tu voulais apporter par rapport à la présentation que j'avais faite.
Oui, donc ce que je voulais vous dire, en fait, c'est expliquer pourquoi je me suis embarquée sur cette flottille. Car ça étonne beaucoup de gens à mon âge et on se demande qu'est-ce qu'elle a été faire sur un bateau, c'est ridicule. Mais j'ai des raisons très solides. Une des raisons, c'est mettre la Corse à l'honneur. Cet événement est exceptionnel. On n'a jamais eu une flottille de cette importance pour intervenir, pour remplacer ce que les gouvernements ne font pas. Et pourquoi je voulais que la Corse y soit? Car pendant longtemps, on a eu nos héros en Corse. La Corse, je le souligne, a été le premier département libéré, 10 mois avant le continent. Pendant des années et des années, on ne l'a pas dit après-guerre. Mais maintenant, c'est reconnu. Or, c'était le département le plus occupé de France, un occupant pour 2 habitants valides. La Corse a fait cette libération avant l'arrivée de l'armée, par les simples patriotes, car elle a créé une résistance unie et une résistance de masse et une résistance armée. Elle s'est battue. Et là, vous avez les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde se battait. Le plus jeune que j'ai eu, c'est un petit garçon de 11 ans. On m'a envoyé sa photo, il était en communion. Il est mort, le fusil à la main contre les nazis, là, parce que c'était la dernière partie de la résistance. Ensuite, nous avons travaillé beaucoup au collectif pour une paix juste et durable, en nous réunissant toutes les semaines pour parler de la Palestine. On n'a jamais réussi à étendre cette mobilisation, mais on a été très soudés, très fidèles au rendez-vous. Et de temps en temps, on faisait une opération choc avec une grande marche spectaculaire, en se mettant des salopettes tachées de sang, etc. Mais on n'a pas beaucoup de militants qui nous rejoignent régulièrement chaque semaine. On a pris la décision d'envoyer une lettre aux députés, aux sénateurs et au président de la collectivité territoriale et à la présidente de l'Assemblée de Corse, où on explique, on leur demande une réaction publique. Et là, on a la surprise et la joie d'être appelés à un vote à l'Assemblée de Corse, où on était spectateurs et où ils ont repris les demandes. Et à l'unanimité, cette motion a été votée. Elle est symbolique car ça n'est qu'un État qui peut reconnaître un État. Mais ce symbole a eu beaucoup d'importance. C'est le premier modèle de pouvoir intermédiaire qui peut forcer un peu la main du gouvernement. Car peu de temps après, on a eu 86 mairies qui ont mis un drapeau palestinien. La préfecture a demandé de les enlever. Ils ont répondu non.
Ok,
Donc c'est du pouvoir.
voilà, et j'entends dans ce que tu dis que finalement, parfois, les citoyens se désespèrent parce qu'ils ont l'impression que ça n'avance pas, mais finalement, c'est par un travail opiniâtre de rappel, tout simplement des textes internationaux, des droits qui ont été établis, que finalement, de façon tout à fait logique et démocratique, vous avez été invité à l'Assemblée de Corse, et que donc, ben voilà, cette Assemblée de Corse, même si malheureusement, elle n'a pas peut-être assez d'autonomie, que ce n'est pas un État, la Corse, eh bien, c'est quand même cette Assemblée qui, en France, a été la première à reconnaître l'État de Palestine. Voilà, ben
Alors,
ça,
j'ai
c'est
une deuxième
important.
raison pour laquelle je me suis embarquée. Ça, c'est mon origine familiale. Donc, en effet, dans ma famille, c'est très lourd à porter. Il y a deux héros. Il y a Danielle Casanova, qui a été une féministe, une des premières féministes, qui a créé l'Union des jeunes filles de France, qui a été les chercher une par une, des jeunes filles non cultivées, qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient pas de travail. Elle en a fait des politiques. Elle les a insérées dans la société.
Voilà.
On en arrive à la troisième raison de mon engagement. Je vous disais donc, dans ma famille, très jeune, j'ai acquis des valeurs. J'ai acquis des valeurs un peu compliquées pour une enfant, mais je les ai ancrées très profondément. Les valeurs de Danielle Casanova. Justice sociale, solidarité, fraternité et surtout lutte pour la défense des droits humains et lutte contre toute forme de racisme et d'exclusion. C'est pourquoi d'ailleurs je milite pour défendre les migrants, je milite à SOS Méditerranée, car c'est le droit international de la mer que je défends. On a obligation de sauver des gens. Je fais la lutte antifasciste et je travaille énormément en militant pour la liberté des Palestiniens. Pourquoi? Le dernier petit truc qui m'a fait m'engager énormément pour ce bateau, c'est que après-guerre, j'ai milité contre l'antisémitisme, car c'était le peuple qui était maltraité, il y avait un génocide. Et j'ai entendu chaque année des survivants de l'Holocauste ou les familles de ceux qui sont morts dans l'Holocauste venir chez nous et dire plus jamais ça. J'ai même un carnet où ils disent de tous les camps où ils étaient, et il y a partout, il y a marqué plus jamais ça. Pour une enfant, c'est très marquant. Et puis à 17 ans, j'ai appris la guerre d'Algérie. Et j'ai compris que plus jamais ça, c'était pour tout le monde, mais pas pour les Arabes. Et là, je me suis indignée. Et j'ai commencé la lutte contre l'islamophobie. On nous interdit ce mot, mais il y a bien de l'islamophobie. Et en particulier, j'ai constaté que tout ça, ça vient du colonialisme. Avec les indépendances, on croyait que c'était du passé, tout ça. Mais j'ai constaté que toute l'Europe est toujours avec une idéologie coloniale et une pratique coloniale. C'est pour ça qu'ils défendaient Israël, c'est pour ça qu'ils ont été complices pendant 2 ans, c'est pour ça qu'il y avait les médias qui étaient muets. On voyait, nous, sur les réseaux, un génocide en direct et personne n'en parlait. Donc, c'est encore une raison pour laquelle j'ai été au-delà de ma propre peur, car je vous avoue que je me suis engagée pour partir dans cette flottille. Je vais avoir 83 ans en décembre, j'ai 3 enfants, j'ai 13 petits-enfants et j'ai 4 arrière-petites-filles. Donc on peut se demander qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère.
Voilà, alors
mais
attends. Oui.
Je rajouterai une chose. À quoi ça a servi d'avoir le panthéon des grands hommes si on n'applique rien des concepts qui ont motivé leur vie? Ça devient ridicule. Donc c'était quelque chose, je ne pouvais même plus me poser de questions. Je devais y être, et je devais y être aussi pour représenter la Corse, car j'ai constaté qu'en Corse, le racisme monte à une rapidité effrayante, le fascisme s'installe. On a failli à un moment donné avoir le RN à plus de 50% en Corse. Cette île qui a été l'île des Justes, qui a pas fait déporter de Juifs, l'île de l'accueil, c'est tous les écrivains le décrivent, cette île avec la passion des Iliens qui donne tout avec courage, du bon sens pendant la guerre, et aujourd'hui elle vire du mauvais côté. Donc moi, en allant sur cette flottille, j'exhortais, j'ai d'ailleurs fait passer un message en disant « Tous les Corses, je vous demande de vous lever à Propriano, à Bastia, à Corte, à Porto Vecchio, soutenez notre flottille, c'est vital pour l'humanité. » Donc voilà, je vous ai donné toutes les raisons qui m'ont fait partir sur cette flottille.
Oui, c'est des sacrées raisons, et d'autant plus que, de façon assez paradoxale, les Iliens, en général, ne sont pas forcément des marins, à part bien sûr les Polynésiens. Et du coup, pour préciser les choses, certains ignorants, certains peut-être jaloux, certains imbéciles ont qualifié les gens qui se sont engagés sur cette flottille de croisiéristes. Alors oui, ils vont en Sicile, ils vont en Grèce, absolument pas. Tu nous as expliqué, alors pour résumer, que sur ce grand bateau que tu étais avec plus de 100 personnes, vous aviez ce qui est fondamental en bateau en mer, c'est le moteur et puis la nourriture. Ouais. Hein, la personne la plus, voilà, parce que quand on est dans un huis clos pendant plusieurs jours, il faut bien manger. Or, ce que vous aviez embarqué à bord des bateaux de la flottille, c'était bien évidemment destiné aux Gazaouis. Mmh. Et du coup, vous aviez des menus tout à fait pas du tout appétissants, et ce qui t'a amené d'ailleurs à manger très peu. Et en plus, c'était un bateau avec plusieurs étages, et chaque jour, chaque nuit, on vous faisait faire des exercices, parce que vous saviez très bien que avant même d'arriver dans les eaux territoriales d'Israël, vous serez attaqué, littéralement, et donc ça n'a pas du tout été une semaine rigolote, pas du tout. Et donc tu nous as expliqué, voilà, que c'était très très sérieux cette flottille, bien que tous les gens qui se sont engagés, y compris certains leurs bateaux particuliers, ont perdu leur bateau d'une part, et que in fine, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que vous avez dans un premier temps, alors déjà, dès le départ de Tunisie, des bateaux avaient été attaqués par des drones, et puis tous les jours, toutes les nuits, vous viviez dans la certitude d'une attaque, dont vous faisiez des exercices. Et finalement, c'est en pleine nuit. Tu m'as raconté que des hélicoptères sont arrivés et que des soldats ont été élitruyés. Tu m'as dit d'ailleurs que c'était des soldats très jeunes. Bon, et finalement, vous êtes arrivés à terre. Donc, je répète que cette attaque a été faite dans les eaux internationales de façon tout à fait illégale. Mais je vois que tu voulais préciser quelque chose. Et du coup, vous arrivez à terre, vous, c'est-à-dire tous ces équipages, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui évidemment sont traités, avaient déjà été traités bien avant leur départ comme des terroristes, alors que les gens qui étaient là simplement pour établir, selon le droit, un corridor humanitaire maritime. Alors du coup, vous êtes maltraités à terre, mais à part qu'il y en a certains d'entre vous, certaines en l'occurrence, bon, il y a eu la fameuse Greta Thunberg qui a été isolée, mais toi aussi, Isaline, tu t'es retrouvée isolée. Et est-ce que tu peux du coup nous dire maintenant à terre, qu'est-ce qui t'est arrivé de façon tout à fait incroyable et très terrorisante du coup, à terre? Alors nous sommes à terre.
En fait, il faut commencer quand j'embarque sur le bateau. Chose déjà amusante, vu mon âge, je dois m'acheter un sac à dos, j'ai jamais fait des randonnées à sac à dos. Moi, j'allais avec des tongs escalader mes sentiers corses, hein, et je me retrouve équipé. Acheter une lampe à mettre sur mon front, une banane autour de ma taille et un sac à dos. Et on embarque sur ce bateau, et là, on est deux personnes plus âgées que les autres, on nous propose une seule cabine, il y a une cabine. Mais elle est au deuxième sous-sol, avec des escaliers qui sont des échelles. Or, nous savons, puisqu'on avait déjà commencé à terre, qu'on a énormément de réunions de préparation et qu'on est appelé par une sonnerie et qu'il faut faire très vite. Donc, on comprend qu'on ne pourra pas aller dans les cabines. Et là, on découvre au départ qu'on doit dormir entre des fauteuils par terre avec un tapis de yoga. J'ai moi-même une épaule qui a été blessée par un vaccin et les conditions sont assez difficiles. Mais très vite, on s'y fait. On savait très bien qu'on partait pas s'amuser. On savait très bien que la mer serait difficile. Moi-même, je suis claustrophobe et on était enfermés dans ces sans air. Mais tout ça disparaissait pour moi. Parce que la cause était beaucoup plus importante que le ressenti dans le voyage. Une seule chose me sauvait, c'est que j'aime la mer. J'aime la mer. J'ai fait très peu de bateaux, mais j'ai fait quand même quelques petites croisières en allant à la pêche, dans des îles, etc. Et j'aime la mer, j'aime nager. Donc me retrouver sur un pont, respirer l'air et regarder tout ce bleu, ça c'était le côté positif. Mais c'était pas la croisière s'amuse, je peux vous le garantir. On avait peu, d'abord, il fallait faire attention aux finances, ça coûtait déjà cher d'installer tout ça. Donc la nourriture était très restreinte, on mangeait du riz et puis un peu de légumes et crabouillés, mais tout le monde s'en fichait, vraiment. Et également, on n'avait pas de confort. Et on avait énormément de travail, les exercices d'incendie, organiser notre réaction pour quand on serait à raisonner. On faisait des groupes, et les groupes avaient une certaine autonomie. On pouvait décider entre nous quelle attitude on allait prendre. Est-ce qu'on allait repousser avec les mains en avant au lieu de les lever en l'air? Est-ce qu'on allait les lever en l'air? Est-ce qu'on les mettait un peu plus bas pour montrer qu'on était des pacifiques, mais qu'on ne provoquait pas? Que serait notre regard? On apprenait à dire on les regarde en face, mais sans les fixer. C'est plein de petites choses qui nous donnaient un travail fou tous les jours et des exercices de rapidité, car on ne savait jamais quand c'était réel ou pas. On avait la sirène, il fallait courir, enfiler nos gilets, s'installer par groupe et se préparer. Et là, on découvrait que c'était une fausse alerte. Jusqu'au jour où on a vu des drones. Beaucoup de drones qui sont passés pas loin de notre bateau. D'abord, on a retrouvé les petits voiliers. Et là, j'étais très contente parce que nous, on avait le gros bateau Conscience. On était 92. Mais moi, je connaissais les gens sur les petits voiliers car on les avait fait partir de Corse. Ils étaient censés partir d'Italie. Ils avaient acheté leur bateau en Corse. Mais moi, je voulais à tout prix qu'il y ait un événement qui parte de Corse. Je voulais que la Corse soit présente dans cette flottille. Donc, ils sont partis de Corse. Et certains, comme à la manifestation de soutien quand ils partaient, j'ai chanté Bella Ciao, j'ai fait un grand discours, ils me connaissaient. Et quand notre gros bateau les a rejoints, parce qu'on allait plus vite, On est parti après eux. Ils ont fait un ballet de leur petit bateau autour de nous. On se faisait des grands signes. Et tout à coup, j'ai entendu crier « Isaline, Isaline !» Certains, sur leur petit voilier, me reconnaissaient. Et ça, c'était un moment chaleureux et pour nous, extrêmement émouvant, que toute la flottille se regroupe.
Ça, c'est important.
C'était un moment important. C'était très beau.
Je me permets de te couper parce que les gens ne savent pas que depuis des décennies, il y a des flottilles pour Gaza, mais qui ne sont jamais arrivées, ne serait-ce que dans les eaux d'Israël. Mais souvent, c'était des bateaux seuls, isolés. Hein, par exemple, on a ce fameux bateau qui s'est appelé Madeleine, et qui a marqué, entre autres, donc Greta Thunberg et Rima Hassan, notre députée de la France Insoumise. Mais quand on est isolé, enfin déjà dans les conditions que tu décris, à bord, vous étiez 98, mais le bateau se sent seul, alors que quand on est en flottille, justement, et de savoir que bien sûr qu'il y a des Corses, bien sûr qu'il y a des Français, mais il y avait des Australiens, enfin de 44 nationalités. Et là, évidemment, même si chacun se retrouve in fine seul face à ses angoisses et à sa réalité, de sentir qu'il y a comme ça une masse, un groupe, un collectif, à ce moment-là, on peut aller plus loin.
Voilà. Et justement, cette angoisse, elle disparaissait. La chaleur, la solidarité que nous avons eue me rappelait tous les récits qui a été, de ma tante, qui à chaque fois, c'était la solidarité du groupe et garder sa dignité, être fort et compter les uns sur les autres.
Voilà.
Le nombre de personnes qui venaient pour m'aider, alors que je suis très vaillante, mais du fait que je sois plus âgée et que j'étais la doyenne de toutes les flottilles, il n'y a eu personne de mon âge qui a embarqué sur un bateau.
Et justement,
la gentillesse, la solidarité, et puis le même militantisme.
Oui.
On avait les mêmes objectifs. Et l'image de tous ces petits voiliers, ils étaient 8, qui tournaient autour de nous, qui se rapprochaient, ça a été un moment très fort à ce moment-là.
En tout cas, les mots importants que nous soulignons, évidemment, c'est les mots solidarité, les mots fraternité. Bon, maintenant, bien sûr, on dit plutôt... On dit aussi sororité, mais j'ajoute qu'il y a quand même au niveau maritime la légendaire solidarité des gens de mer. Malheureusement, même cette légendaire solidarité des gens de mer est battue en brèche, ne serait-ce que par rapport à SOS Méditerranée que tu citais précédemment. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de bateaux qui sauvent ces pauvres gens d'une part et d'autre part. Voilà. Et donc finalement, vous avancez, mais chaque jour, chaque nuit est un travail, et il y a des angoisses, mais bon, vous êtes en flottille. Et donc, vous rapprochez finalement.
Non, on est loin encore.
Oui, mais vous, petit à petit, mais vous êtes encore dans les eaux internationales.
On va très doucement, justement, pour ne pas arriver. On ne veut pas arriver trop vite, on veut qu'on soit tous groupés. On s'est même mis à l'arrêt à un moment donné. Et on est dans les eaux internationales, loin d'Israël, mais vraiment, puisqu'on a dû, après l'arraisonnement, naviguer une journée.
Et oui.
Donc, complètement illégalement, on est arraisonné en eau internationale et très loin d'Israël. Israël n'est pas en danger, il n'a aucun motif de dire on se défend. Et là, comment ça se passe? Alors je dois dire qu'on est prêt, moralement, mentalement, on s'est beaucoup entraîné, psychiquement, et on débarque sur le port, et tout de suite, là, c'est pas du tout comme les jeunes sur le bateau. Oui, j'ai oublié de te dire que quand on est sur le bateau, les jeunes qui descendent de l'hélicoptère sur des cordages.
Les jeunes soldats.
Arrivent, c'est des gamins. Oui. C'est des gamins, ils ont des yeux d'enfants, ils sont eux-mêmes affolés de ce qui se passe. Moi, j'ai même pu les manipuler pour sortir sur le pont parce que je faisais semblant d'étouffer et que j'avais besoin d'air. Et je voyais ces yeux d'enfants effrayés parce qu'ils ne savaient pas gérer la situation. Et j'étais sûre qu'ils avaient tué des bébés, qu'ils avaient tué des femmes. Mais ils ont été entraînés pour ça, mais ils sont paumés. Et j'entends parler des suicides de plus en plus fréquents en Israël. Ça vient de cette jeunesse. Certains courageux brûlent leurs papiers militaires et d'autres, qui ont moins de force morale, se laissent entraîner, mais ils sont complètement bousillés. Quoi.
Oui.
Donc, après, arriver au port, c'est plus du tout la même chose. Là, on a affaire immédiatement à des gestes rapides et brutaux. Et le premier commence sur moi, c'est-à-dire mes compagnons ne s'en aperçoivent pas. Dès que j'arrive, immédiatement, on vient me chercher sans brutalité et on me dit « il faut que vous voyez le médecin du port ».
Je sais, c'est une fin d'interview un peu abrupte et on a tous et toutes très envie d'entendre la suite. Et ce sera la semaine prochaine. Ces initiatives, les routes du Zaatar, la flottille et toutes les autres actions, ce sont des choses concrètes pour qu'on ne reste pas interdit, littéralement. Et puis il y a autre chose, c'est notre pouvoir en tant que consommateur et consommatrice. C'est Rizlen qui va nous en parler. Mais d'abord, j'aimerais vous dire un petit mot sur la campagne BDS dont elle va faire mention. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement et sanctions. Depuis des années, c'est une organisation qui existe partout dans le monde, y compris en France, où elle mène des campagnes pour rappeler des marques à l'ordre en faisant pression sur elles contre leurs exactions à travers le pouvoir que nous, on a en tant que consommateurs et consommatrices. Bon, et maintenant que vous savez mieux ce que c'est cette campagne BDS de boycott des investissements et sanctions, je vous propose d'écouter Rizlen sur le sujet et je reviens juste après.
Chères auditrices, chers auditeurs, je suis Rizlen et j'interviens régulièrement pour vous parler de l'actualité, notamment du boycott. C'est un sujet qui prend de l'importance, surtout en ce moment. Le boycott, c'est une manière pour les citoyens d'exprimer leur opinion en choisissant de ne plus acheter certains produits ou de ne plus soutenir certaines marques. Par ce geste, chacun peut montrer son désaccord et défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Qu'il s'agisse d'une cause sociale, politique ou environnementale, le boycott rappelle que nos choix de consommation ont un poids et peuvent influer le comportement des entreprises, comme le montre dans cet extrait d'un reportage diffusé sur Arte qui illustre l'impact du boycott dans l'agriculture de l'État génocidaire.
Une mangrée qui domine le lac de Tibériade. La récolte est presque terminée, mais Rovendor sait qu'une grande partie ne trouvera pas acheteur. À la tête de l'exploitation depuis plus de 50 ans, il fait face à un phénomène massif, le boycott des produits israéliens par l'Europe, sur fond de tragédie humanitaire à Gaza.
Toute l'Europe nous boycotte. L'Angleterre, la France, quasiment toute l'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Italie. Et vous savez quoi? Je peux comprendre le ressentiment, mais je suis contre le boycott. Si l'Europe veut contraindre Israël à changer de cap, cela doit se faire par la voie diplomatique.
Pas de quoi mettre en danger cette exploitation. 65% des mangues partent sur les marchés locaux. Mais les pertes seront importantes. L'épouse de Roven ne comprend pas.
Les rues en Europe sont envahies de drapeaux palestiniens. Ils n'achètent plus nos produits. Même en y mettant du mien, je ne comprends pas les Européens. Le Hamas leur a lavé le cerveau.
Ofer Levin confirme la tendance. Cet exportateur de produits agricoles approvisionne plusieurs chaînes de supermarchés en Europe. Selon lui, les marchandises israéliennes seraient boycottées à bas bruit.
Aldi Sud, l'un de nos principaux clients, a cessé d'acheter nos produits. On nous dit que les agriculteurs locaux font pression pour que la chaîne de supermarchés achète leurs propres produits. Mais nos importateurs nous ont avoué que la véritable pression était d'ordre politique. Leurs clients redoutent l'opinion publique qui ne leur permet plus de proposer des produits israéliens dans leurs rayons.
Dans un courrier qu'Aldi nous a adressé, le discounter affirme s'engager à s'approvisionner de manière responsable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette évolution inquiète beaucoup les économistes de l'université Reichmann de Tel Aviv, comme Benjamin Bental.
Pour le moment, ce sont juste des entreprises qui boycottent Israël. Mais nous craignons que ça ne s'étende au niveau des États et que cela ne se solde par des sanctions. Ce serait un coup dur pour Israël et sa capacité à se maintenir.
Reuven, le producteur de mangue, ressent déjà les effets de la crise. En attendant que la guerre et le boycott se terminent, il laisse ses fruits pourrir dans la cour du grossiste. Au moins, elles serviront à nourrir les animaux.
Et on rappelle que l'obligation pour les supermarchés d'indiquer clairement la provenance des denrées est obligatoire. Le non-respect de cette règle peut entraîner un contrôle de la répression des fraudes et ainsi qu'une lourde amende. Et une dernière actualité en lien avec le boycott. BNP Paribas a été condamné le 17 octobre à New York pour complicité d'exactions commises au Soudan sous Omar el-Béchir. Trois plaignants soudanais naturalisés américains ont obtenu près de 21 millions de dollars en réparation. Ils ont témoigné de violences subies par l'armée et les milices. Jeanne Jawid, responsable d'atrocités au Darfour. La banque est accusée d'avoir financé indirectement le régime, notamment via des crédits liés au pétrole et à l'agriculture. La défense a nié toute responsabilité, évoquant un contexte de violence récurrente. Le jury n'a pas retenu cet argument et a condamné BNP Paribas à indemniser les victimes. Cette entreprise fait partie du boycott ciblé de BDS. Le boycott ciblé est aujourd'hui notre priorité, car il représente l'outil le plus efficace pour peser sur le plan économique et politique. Chaque marque ou entreprise concernée a été soigneusement étudiée, non pas au hasard, mais en fonction de son rôle, de son influence et de son impact direct dans le système que nous voulons transformer. Le boycott ciblé est aussi un outil pédagogique et mobilisateur. Il donne à chacun des actions concrètes et accessibles. Changer ses habitudes de consommation, privilégier des alternatives, informer son entourage. Ainsi, chaque geste individuel s'additionne et devient un mouvement collectif capable d'ébranler même les plus puissantes structures. Au-delà de la simple pression économique, le boycott ciblé est un acte politique. Il oblige les décideurs à constater que l'opinion publique peut s'organiser, qu'elle peut refuser la complicité silencieuse et qu'elle exige des changements concrets. C'est pourquoi nous faisons de ce boycott ciblé une priorité, parce qu'il transforme l'indignation en action et l'action en pouvoir de changement. Pour connaître la liste complète et à jour des marques et entreprises ciblées, rendez-vous directement sur le site de la campagne BDS, www.bdsfrance.org. Et sans oublier les applications indispensables à notre lutte, comme Boycott X, No Thanks et Boycott. Il vous suffit de scanner pour savoir si c'est à boycotter ou non. De scanner le code barre, pardon. Avec les arguments pour chaque entreprise, vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous devez boycotter ou non cette entreprise. Et je vous quitte avec cette belle musique pleine d'espoir pour le peuple palestinien qui vit en ce moment les heures les plus sombres de l'histoire. Et le titre de cette musique est « Palestine will be free » de Rimbiana. À la prochaine et merci de votre écoute.
Settles on the towers where the might once stood so tall. A whisper turns to a roaring wind, answering freedom's call. The chains that bound the ancient stones begin to rust and break, for the superpower has fallen for past Palestine's own sake. Oh, the superpower has fallen. Hear the joyous rising plea from the river to the sea. Palestine will be free. The olive trees are swaying in a breeze of sweet. Silence, but now the truth unfolds.
the joy is rising, plea from the river to the sea. Palestine will be free. The olive trees are swaying in a breeze of sweet release. Hope is blooming, peace is dawning, bringing everlasting peace. Rise across the sacred land with steadfast faith and dignity, hand in human hand. The sun now shines on shattered dreams, mending every scar. A new horizon beckons, guided by a hopeful star. Joy is rising, plea from the river to the sea. Palestine will be free. The olive trees are swaying in a breeze of sweet release. Hope is blooming, peace is dawning, bringing everlasting.
Merci Rizlan pour cette géniale chronique et ce beau choix de musique qui, pour ma part, a soufflé un petit vent d'espoir. C'était Palestine Will Be Free de Rimbiana. Encore merci Rizlan et j'espère qu'on te retrouvera bientôt sur les ondes de Radio Galère 88.4, ici dans l'émission Une Heure en Palestine. Justement, cette heure s'est écoulée. Faites-la durer dans vos chaumières en réécoutant ce podcast et en parlant sans relâche de la Palestine, des Palestiniens et des Palestiniennes. Nous ne savons que trop bien que notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens. Cette phrase, elle n'est pas de moi, je l'ai reprise de Nelson Mandela lui-même. Il l'a prononcée en 1997 et c'est là-dessus que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, c'était Marie. À très vite dans Une Heure en Palestine.
Yeah. shall I be?